Chers frères et sœurs, la médecine nous apprend et nous recommande qu'il faut marcher pour vivre. Et marcher régulièrement, d'autant plus qu'on approche du terme de la vie. C'est-à-dire qu'on entre dans la vie, quoi. Marcher régulièrement et manger sainement pour entretenir notre corps. Le muscle du cœur lui-même a besoin d'être fortifié par l'exercice physique, et nous le savons bien. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens des premiers temps de l'Église, à nous aujourd'hui, alors que lui-même connaît les épreuves de la captivité. L'homme extérieur est prisonnier, mais l'homme intérieur, le cœur d'apôtre, est rendu fort par l'Esprit du Père. C'est dire que notre cœur a grand besoin d'être animé par un souffle qui n'est pas seulement le souffle extérieur, mais le souffle du Saint-Esprit. Dans sa prière, Paul ne pense pas à lui, mais aux autres, ses frères et sœurs dans la foi qui sont à Éphèse, à travers lesquels se répand peu à peu dans le monde entier la connaissance de l'amour du Christ. C'est pourquoi l'apôtre demande dans sa lettre que le Père nous arme de puissance par son Esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur, c'est-à-dire le cœur. Pour que se fortifie en nous l'homme intérieur et que Dieu fasse en nous sa demeure, qu'il fasse, dit-il, habiter le Christ en nos cœurs par la foi. Cette habitation du Christ au cœur de l'Église, nous l'accueillons par la foi, pas par nos œuvres. Où est notre cœur? Où se trouve le cœur de l'Église? Avons-nous un cœur unique? Qui demeure en vérité, en profondeur, dans le cœur humain? Dieu seul. Dieu seul demeure en permanence, au tréfonds du cœur humain. Il est le véritable ami, comme disait Thérèse d'Avila que nous fêtions hier. Sans lui, et du coup sans nous quitter nous-mêmes pour l'aimer, lui, nous ne pouvons ni ne voulons rien faire. Pas seulement nous ne pouvons rien faire, mais même notre vouloir va finir par s'affaisser. Alors nous aurons peut-être des désirs, des pensées, mais le vouloir ne suivra pas. Parce que tout vient de Dieu. Et la sainte que nous fêtons aujourd'hui, saisie par cet amour premier du Christ, contemplée dans l'Eucharistie, reçue dans l'Eucharistie, et suivi dans la vie concrète, ô combien concrète et difficile, d'une ferme pas loin d'ici, nous apprend qu'il faut se quitter soi-même et que le véritable oubli de soi permet l'accueil, évidemment, de celui qui est le tout autre, venant habiter le cœur du monde et le cœur de chacune de ses créatures. Nous réalisons que sans lui, c'est la place pour un autre souffle que le souffle de l'Esprit-Saint, souffle de nos méfiances, souffle de nos paresses, souffle de nos hésitations, de nos rancœurs, des replis égoïstes ou orgueilleux. Tout cela fait obstacle à la vie du Christ dans nos cœurs, ne permet pas la libre circulation du sang. Et du coup, nous ne faisons même plus d'exercice. Je parle ici de l'élan de la vie chrétienne, de cette course de la charité dont parle François de Sales et tant d'autres saints et saintes. Nous réalisons combien nous aimons peu, pas assez, et parfois mal, et combien nous peinons sur le chemin de la véritable vie. À cet endroit, il y a un carrefour. Soit nous nous enfonçons dans le découragement ou l'isolement mortifère, soit nous nous précipitons avec confiance dans le cœur de Jésus, répondant ainsi à son invitation unique, tellement délicate, qui ne fait pas de bruit, qui ne remue pas forcément les plateaux de télévision, qui n'agite pas forcément les imaginations tout de suite, peut-être même pas du tout. Reconnaissable parmi toutes cette voix du bien-aimé, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, sous le poids des exigences de l'Évangile, pour qui la pratique de la charité n'est pas tout de suite facile, et que ceux qui pensent que c'est facile lèvent la main tout de suite. Et pourtant, le Saint-Esprit vient rendre peu à peu cette vie, enfin le fardeau devient léger, ce qui est très mystérieux. Mais il y a combat, il y a épreuve, il y a conversion à vivre. Oui, venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui peinez dans l'obéissance au commandement et à la parole de Dieu. Moi et moi seul, je vous donnerai le repos. Alors, quel est ce repos? Ce n'est pas le repos du retrait du monde. Ce n'est pas le repos de la sieste continuelle, même dans le sud. Ce n'est pas le repos des enfermements dans les chapelles, au sens figuré du mot. Disons des isolements protecteurs. Ce repos est la vie de Dieu en nous, rien de moins. Ce repos est le sommet de la création, la raison d'être de l'œuvre créatrice de Dieu. Il est la paix véritable, la paix de ce qui est remis dans le sens de la vraie vie, dans le sens des relations fraternelles authentiques avec les autres. Il est la tranquillité d'un cœur et d'un esprit réconciliés, pouvant se donner enfin librement, aimer librement, pouvant enfin parler avec simplicité, sans arrière-pensée et avec confiance. Il est cette paix que nous trouvons bien sûr dans l'adoration et dans la vie entière. Le fondateur, avec Jeanne de Chantal, de l'ordre de la Visitation, écrit ceci. Sainte Marguerite Marie, ne l'oublions pas, en est l'héritière. Vous me demandez comment les âmes qui sont attirées dans l'oraison à cette sainte simplicité et ce parfaitement abandonnement à Dieu, se doivent conduire en toutes leurs actions. Comment les âmes de prière doivent se conduire en toutes circonstances dans le monde actuel? Je traduis. Je réponds, c'est toujours François de Sales ici, que non seulement dans l'oraison, mais en la conduite de toute leur vie, ces âmes doivent marcher invariablement en esprit de simplicité, abandonnant et remettant toute leur âme, leurs actions et leurs succès au bon plaisir de Dieu, par un amour de parfaite et très absolue confiance, se délaissant à la merci et aux soins de l'amour éternel que la divine providence a pour elles. Dans une lettre à Sœur de la Barge du 22 août 1689 et que le pape François reprend dans sa lettre encyclique sur le Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie écrit elle-même. Il faut que ce divin cœur de Jésus soit tellement substitué en la place du nôtre que lui seul vive et agisse en nous et pour nous, que sa volonté puisse agir absolument sans résistance de notre part, et enfin que ses affections, ses pensées et ses désirs soient en la place des nôtres, mais surtout son amour, qui s'aimera lui-même en nous et pour nous. Et ainsi, cet aimable cœur nous étant tout en toute chose, nous pourrons dire avec saint Paul que nous ne vivons plus, mais que c'est lui qui vit en nous. Frères et sœurs, demandons cette confiance entière, cette confiance simple, en l'amour actuel dont Dieu aime toute sa création, nous aime personnellement chacun, dans le Christ Jésus, dans son cœur unique. Demandons cette confiance. Demandons de suivre mieux et continuellement le Christ doux et humble qui nous fera trouver le fardeau léger parce que nous n'aurons plus un cœur divisé, ni craintif, ni coincé, mais un cœur qui non seulement entraîne le corps tout entier pour marcher, mais même, comme dirait saint Benoît, pour courir sur les chemins de la charité.